Bonjour, ici Louis sur RDWA pour une émission spéciale cantonale. Les élections cantonales se dérouleront le dimanche 20 mars 2011 pour le premier tour et le dimanche 27 mars 2011 pour le second tour. Cette élection ne déchaîne pas la passion des foules et pourtant, ces élections, les dernières avant l'arrivée de la réforme territoriale, sont essentielles pour la vie politique locale. Notons de plus que cette élection sera le dernier test électoral avant la présidentielle. Et plutôt que de faire une émission classique où tous les candidats des cantons concernés présenteraient leur programme, nous avons souhaité à RDWA faire une émission non et aboutissant de cette élection locale. Aujourd'hui avec moi en plateau, Franck Le Priol, chef d'entreprise et ancien élu local, nous apportera sa connaissance des rouages de la vie politique et réagira au micro-trottoir réalisé et à un interview du conseiller général de Die sur le départ, Bernard Condette. Bonjour Franck.
Bonjour Louis.
Sans déflorer les contenus, on peut constater que cette élection passe relativement inaperçue. Et si on peut comprendre que les gens se sentent déconnectés des hautes sphères élyséennes, la désaffection des citoyens au moment de choisir l'élu qui les représentera au niveau des cantons et du département est plus dérangeante. Qu'est-ce que tu en penses Franck ?
Oui, tout à fait. Après, la vraie problématique, en fait, c'est que la prochaine élection de 2014 va être assez fondamentale, puisqu'en fait, à partir de 2014, on n'aura plus de conseillers généraux et de conseillers régionaux, mais des conseillers territoriaux avec une représentation qui va vraiment poser un réel problème, puisqu'on va passer de... actuellement, il y a donc 36 conseillers généraux, donc au niveau du département, il y en a 14 au niveau de la région, ce qui fait une cinquantaine, et on passera donc à 28 avec un mode de représentation très compliqué, puisqu'en fait on aura un représentant pour 20 000 habitants, sachant que l'arrondissement de Die, en fait, Cray compris, c'est 40 000 habitants, donc ça veut dire 1,5 voire 2 conseillers pour la totalité de ce bassin.
D'accord, je te propose d'y revenir tout à l'heure sur les conséquences de cette loi territoriale. Je te propose maintenant d'écouter les réactions des gens sur le marché à propos des élections cantonales. Nous leur avons posé 3 questions. Bien entendu, cet échantillon n'est pas représentatif de toute la population et donc son enseignement est limité. La première question, très simple, connaissez-vous le conseiller général de votre canton ? Ceci afin de voir si cet élu local de proximité était en lien avec son électorat. Voilà ce que ça donne.
Non.
Mon conseiller général, oui, je crois savoir qui c'est, mais son nom ne me revient pas.
Non.
Bien sûr que non, je ne sais plus du tout son nom.
Oui. Monsieur Condette.
Je ne le connais pas personnellement, non.
Oui, ici c'est monsieur Bernard Condette.
Donc oui, bien sûr. Didier Guillaume.
Non.
Non, pas du tout.
Non.
Non.
Oui, c'est monsieur Condette.
Non.
Non.
Oui.
Ouais, je sais.
Non. Non.
Très peu.
Non.
Conseiller général, je crois que oui, mais je ne sais plus. Conseiller général, c'est Matron.
Bien sûr, c'est Bernard Condette.
Condette.
Alors, donc, qu'est-ce que tu en penses de cette proximité des élus locaux avec la population ?
Le petit micro-trottoir est assez révélateur, en fait. Beaucoup de gens ont une confusion, en fait. On le sent bien par rapport à tout ça. Donc, effectivement, pour le canton de Die, c'est bien Bernard Condette qui est conseiller général. Il a été cité Alain Matron, qui lui est conseiller général du canton de Châtillon et par ailleurs président de la communauté de communes du Diois. On a quand même plusieurs cantons, plusieurs conseillers généraux, ce que l'on risque de perdre et ce que l'on va perdre de toute façon avec les futurs conseillers territoriaux. Donc c'est vrai que c'est un élu qui est quand même l'élu qui fait le lien direct avec la commune. Les gens le connaissent peu parce qu'il est plus en relation avec les communes qu'avec les habitants, mais c'est quand même une structure qui apporte énormément pour un territoire comme le nôtre.
Alors maintenant, je te propose d'écouter la deuxième question, à savoir, connaissez-vous les compétences des conseillers généraux ? Car si on demande aux citoyens de voter, encore faudrait-il que ceux-ci sachent pourquoi.
Pas mal de choses dans le canton, je ne sais pas au juste. On voit souvent qu'ils donnent des subventions un peu à droite à gauche d'ailleurs, je ne sais pas trop comment ils font, apparemment ils sont bons pour ça.
Par rapport à l'école, ils sont compétents pour les collèges, le lycée c'est le conseil régional, la maternelle c'est la mairie.
Ils s'occupent beaucoup des questions sociales, ils gèrent les collèges, ils s'occupent du RSA, ils s'occupent de beaucoup de problèmes sociaux, essentiellement.
Oui, ils travaillent pour le département et puis voilà, ils fonctionnent un petit peu en liaison entre l'État et nous. Peut-être pour trouver l'argent pour les Diois au niveau des subventions de l'État de France, oui. Et puis voilà, c'est lui, il est responsable pour diriger où l'argent il est posé dans chaque endroit pour les gens de Diois. Oui.
Eh bien, il sert à répartir l'argent pour tous ceux qui lui en demandent. Voilà, ouais, c'est à peu près ça.
Si, je pense à s'occuper un peu de la ville, des hôpitaux, les aides pour différentes choses, les écoles, les associations, etc. Enfin, qui gère quand même, voilà. toutes les choses du quotidien pour nous, les maisons de retraite, etc.
Je connais mal le conseiller général, j'espère qu'il ne fait pas n'importe quoi.
C'est de diriger un petit peu la région, quoi, de voir un petit peu, de réunir tous les problèmes qui peuvent être actuels sur un ensemble de choses de la vie des citoyens. Quoi.
Il s'occupe de tout ce qui est plutôt route, sociale, des choses comme ça, il me semble, grosso modo. C'est le département, quoi.
Ça sert surtout dans le social. Je ne suis pas forte en politique, mais je sais que le Conseil général apporte des aides pour les personnes handicapées, les personnes âgées et voilà, les enfants, je crois.
Normalement, à s'occuper du département, à gérer tous ceux qui s'occupent du département.
Oui, il s'occupe de la commune, normalement, des doigts débloqués, enfin, les subventions pour les routes, tout ça, quoi, pour les écoles, logiquement, quoi.
Il sert à représenter le canton du Diwa auprès du conseil général qui se situe à Valence. Il défend les intérêts du Diwa, il essaye de promouvoir le Diwa, il essaye d'apporter des projets. Il peut accompagner des budgets, rechercher des financements.
Non.
Il faudrait qu'il représente la volonté des habitants au niveau du conseil général.
Donc c'est un élu de proximité.
Bien sûr.
Je suis persuadée qu'ils ont une utilité.
À beaucoup de choses. Ils ont pas mal de pouvoir maintenant au niveau des financements de pas mal de projets et de décisions aussi importantes. Alors lesquelles, je ne sais pas exactement, mais il y en a beaucoup.
Je ne sais pas, ils doivent peut-être servir de relais entre les grands là-haut et nous là en bas, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement.
Alors Franck, ça n'a pas l'air d'être clair pour grand monde. Hein. Alors est-ce que ça vaut le coup encore d'expliquer aujourd'hui leurs compétences, sachant qu'effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, ça va changer bientôt. Mais pour les 3 prochaines années, ça va être valable, donc on pourrait quand même repréciser leurs compétences.
Tout à fait, on peut refaire un petit point dessus. Après quand même, je note une particularité, c'est que autant on connaît mal le conseiller général, autant on connaît quand même mieux les compétences du département, parce que dans ce qui a été cité, il y a quand même beaucoup de matière qui est juste. Alors, pour le département, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, c'est le maillon le plus proche, en fait, des communes, en termes d'aide au développement des communes. Il a été notamment cité beaucoup que le département intervenait dans le niveau social. Effectivement, c'est 48% du budget du département qui est consacré, en fait, aux missions sociales, qui sont de diverses sources. Hein. Effectivement, on a cité les personnes handicapées, les personnes âgées, mais c'est aussi valable pour tous les bénéficiaires de minima sociaux. Au 31 décembre, il y avait plus de 7700 RMistes, par exemple, qui étaient indemnisés directement par le Conseil général. Donc, une très grosse partie, hein, quasiment la moitié du budget, en fait, au niveau du social. Sur le reste, en fait, hein, le deuxième poste important de dépenses, c'est le sport, la jeunesse et l'éducation populaire. On a 15% en fait, du budget qui est consacré. Alors, à la fois dans différentes missions, hein, effectivement, ce sont les missions sportives avec un encouragement de la pratique sportive, à la fois de masse, mais aussi pour les sportifs de haut niveau. C'est aussi la possibilité d'avoir en fait une pratique et une diffusion culturelle aidée par le département qui peut subventionner certains festivals ou bien encore la lecture publique, notamment avec les médiathèques, hein, qui est une compétence départementale, donc la médiathèque de Die par exemple. On a aussi, dans les mesures phares, la réhabilitation des collèges. Le collège de Die en a bénéficié très largement d'ailleurs. Et puis aussi la mise en place du cartable scolaire pour tous les élèves de 6e. Et puis le transport scolaire, donc c'est 25 000 enfants qui sont transportés au quotidien en fait pour se rendre dans les différents établissements. Donc un budget de 15% qui est déjà très important. L'autre budget important qui est à peu près similaire à celui-ci, qui est de 13%, c'est celui des routes départementales, donc l'entretien et la réfection de l'ensemble des routes départementales. Donc là encore un budget important. Ensuite vient à 7% le budget environnement espace naturel dans lequel aussi on a le département du SDIS, donc le service départemental d'incendie et de secours. Il faut savoir que toutes les casernes de sapeurs-pompiers sont financées en quasi-totalité par le département, donc ce qui représente quand même un budget aussi important. Et puis après, deux budgets qui sont un petit peu moindres, le développement économique, qui n'est pas une compétence propre du département, mais qui est une volonté plus politique d'y aller, qui représente 4% du budget, dans lequel on retrouve l'agriculture, le tourisme, le transport, l'amélioration notamment des transports interurbains, et puis principalement des aides qui sont plus destinées aux grands projets qu'aux petits développements de petites PME. Et puis 4% encore du budget qui est sur l'aménagement de développement local. Ça va effectivement sur la volonté de construire du logement social. Donc des logements sociaux, il y en a 700 qui sont inscrits en termes de programmes de construction par le département pour l'année courante. Ensuite, on a la possibilité aussi de retrouver le département dans d'autres compétences. C'est l'ADSL par exemple et le haut débit et la téléphonie mobile, donc avec une véritable volonté d'y aller encore. Là, ce n'est pas une compétence du département, mais ils ont mis les moyens effectivement pour essayer de couvrir l'ensemble des zones blanches. Et puis, c'est aussi bien sûr, avant toute chose, dans ces 4% de budget, le premier partenaire des communes et des intercommunalités, puisqu'en fait, le département est aux côtés de l'ensemble des élus locaux pour les aider à construire les projets. Il y aurait très peu de projets communaux qui verraient le jour sans une aide claire financière du département.
Alors ça veut dire qu'ils passent leur temps autour de table pour décider comment affecter l'argent des contribuables locaux, c'est ça ?
Alors effectivement, il y a des réunions systématiques avec le conseiller général du canton qui retrouve un rythme à peu près d'une réunion au minimum trimestrielle, parfois plus fréquente, qui retrouve l'ensemble des maires élus du canton pour décider justement de la façon dont les finances du département vont pouvoir être alloués à des travaux ou routiers, ou d'entretien, ou de déneigement, ou de réfection du patrimoine, ou de conduite de projets sur des communes, ou même de construction de logements locatifs. Donc ce sont des réunions de concertation. Il y a bien sûr tout un pôle technique qui est divisé en différents départements techniques, en fait, directement sur le département, qui est aussi en soutien aux communes pour conduire l'ensemble de ces projets. Un des éléments qu'on connaît le mieux ici, c'est la subdivision de l'équipement, qu'on appelle différemment maintenant, en fait, qui est sur le territoire et qui effectivement assiste les communes et en même temps les aide dans l'instruction à la fois des permis de construire, de la gestion de leur urbanisme, mais aussi dans la réfection et l'entretien des voies communales.
Alors rassure-moi, être conseiller général, ça a l'air d'être une grosse charge de travail. Et ce sont des élus qui sont rémunérés par le département, je suppose.
Alors ce sont des élus qui sont rémunérés par le département avec des plafonds. C'est-à-dire que le plafond est calculé en fonction du nombre d'habitants. Je crois que là, vous voulez la rémunération, c'est ça ? Non ?
Par exemple.
Par exemple, la rémunération en fait d'un conseiller général, je crois qu'elle est de l'ordre de 1 500 € à peu près sur le canton de Die.
Bon, je te propose d'écouter la suite du micro-trottoir. La question était, est-ce que vous vous sentez concerné par les élections cantonales ?
J'irai voter, oui.
Pas complètement. Pas vraiment.
Oui et non, parce que j'ai pas la nationalité française. Je suis européen d'origine allemande et donc j'ai pas le droit de voter. Et ça m'embête parce que je suis concerné par toutes les décisions depuis 20 ans et je peux pas m'exprimer. Disons, je peux m'exprimer, mais ça n'a pas d'effet.
Je me sens concernée de loin, je vais aller voter si je peux, mais je vais diffuser l'information pour les élections, parce que je pense que c'est important de se manifester. Ouais.
C'est important de défendre le service public, les choses qui se passent en région, enfin en canton. Oh, je sais pas, je suis un peu noyée dans la politique, je m'y connais pas grand-chose à vrai dire.
Tout à fait.
J'y arrive pas.
Oui, bien sûr. Ça sera, comment dire, avec ce qu'on vit aujourd'hui sur le plan politique, les derniers sondages qui donnent le Front National en tête aux prochaines présidentielles, je pense que les cantonales vont avoir un rôle important à jouer pour voir quel est l'état de l'opinion réelle en ce moment.
Je ne suis pas français, mais j'ai envie de prendre mon nationalité française. Français, et puis voilà, je crois que c'est important, oui.
Ben, un petit peu quand même, ouais.
En fait, il y a les élections présidentielles qui polluent un peu les cantonales, j'ai l'impression. Donc voilà, on entend très peu parler. Donc à vrai dire, je zappe un peu aussi, ouais. Je passe un peu à côté.
Pas vraiment.
Plus ou moins, hein, ça reste relatif. On va dire que c'est un petit peu aléatoire. Hein, voilà.
Non, du tout.
Ouais, je me sens concernée. Ouais.
Bah oui, bien sûr. Hein.
Je vais voter le 20 et 27 mars.
Bien évidemment, puisque je suis d'origine de ce pays. Que j'aime ce pays.
Pas du tout. Pas du tout, non. Non, pas du tout.
Oui, oui, complètement concernée, oui. Parce que moi, c'est important qu'à travers l'élection que je vais faire, c'est mes convictions que je vais choisir. C'est pas forcément le personnage, c'est mes convictions.
Ah, mais complètement. Par toutes les élections. Oui, complètement. Je vote tout le temps.
Alors Franck, tu vois que quand même, qu'ils aient compris ou non, beaucoup de gens se sentent concernés et c'est quand même assez rassurant. Est-ce que tu penses que cette élection a manqué de tribune ? On fait en sorte qu'elle n'intéresse pas les gens ? Est-ce qu'il y a, ça manque un peu de communication ?
On a un système, surtout électoral en France, qui est extrêmement compliqué en fait. Hein. Les gens votent pour tout un ensemble de choses de façon régulière. On a un découpage en même temps à l'échelon national, puis régional, puis départemental, qui n'est pas très clair pour les gens, ensuite au niveau de l'Europe. Donc c'est vrai que ça ne motive pas à voter. Après, par contre, on voit qu'effectivement, il y a un intérêt quand même. L'intérêt est souvent politique, alors qu'en fait, moi je dirais que l'élu cantonal est souvent un élu de proximité. Donc c'est vrai que c'est souvent plus la personne que sa coloration qu'il fait, et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de les côtoyer pendant de nombreuses années, qu'ils soient de droite ou de gauche, j'ai toujours trouvé des gens qui se bougeaient pour leur canton, parce qu'en fait ils ont l'amour de leur territoire et qu'eux en même temps ils ont les maires qui sont derrière et qui les réclament et qui sont là, frappent à leur porte, et comme c'est le premier échelon auquel les maires font référence parce que c'est l'élu le plus proche pour eux, forcément c'est un homme qui est forcément ou une femme à l'écoute, et donc c'est vraiment une élection à mon sens qui est vraiment prépondérante. Je dirais autant les élections municipales sont le premier maillon, l'élection cantonale est vraiment le deuxième maillon. Ensuite vient effectivement l'élection régionale, puis ensuite les présidentielles. Je pense en même temps que ce qui tue l'intérêt pour l'élection, c'est la disparition du département et de la région, puisqu'en fait ça va être remplacé par des conseillers territoriaux. Et donc peut-être une moins grande motivation, une moins grande passion.
Moins grande proximité de l'élu.
Moins grande proximité de l'élu, puisque l'élu sera à cheval entre le département et puis la région, donc Lyon. Donc c'est vrai que ce sera, en termes de disponibilité, beaucoup plus compliqué. Et en même temps, on va voter pour des conseillers qui vont être élus jusqu'en 2014. Donc on a raccourci les mandats pour que ça colle en fait avec la fin des conseillers régionaux et des conseillers généraux pour basculer sur les conseillers territoriaux. Donc autant d'éléments qui effectivement font qu'il y a peut-être moins d'intérêt sur ce type de choses. Je ne pense pas que ça manque de tribunes parce que les médias, notamment au niveau de la presse, se font quand même le relais assez systématiquement des différents programmes et des différents candidats.
Ensuite, nous avons voulu interroger le conseiller général de Die sur le départ, M. Bernard Condette, sur son expérience.
Bonjour Monsieur Condette.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous avez donc fait un mandat de 7 ans comme conseiller général du canton de Die.
Oui.
Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette expérience? Comment vous l'avez vécue?
Oui, d'abord c'est une expérience très enrichissante. Je partagerai le travail du conseiller général en 3 éléments. Le premier, c'est d'être au plus près des communes, de leur maire, de leur conseil municipal et des populations pour les soutenir dans leurs projets et les faire avancer. Ça, c'est le premier travail. Ensuite, compte tenu de la situation sociale actuelle, le travail d'un conseiller général, et moi je le vois dans mes permanences, parmi les gens que je reçois, c'est de plus en plus un travail d'accompagnement social, je dirais presque d'assistance sociale, tellement la précarité devient de plus en plus insupportable. Moi, je reçois des gens qui sont dans une situation très difficile, et c'est vrai qu'il m'est souvent arrivé, souvent avec succès, soit d'empêcher par exemple la coupure d'un compteur électrique pour défaut de paiement de facture, des fois même d'obtenir la réouverture de compteurs qui avaient été coupés, y compris en menaçant EDF de porter plainte par exemple. Voilà, ça c'est le travail au plus près des problèmes sociaux individuels. Et puis ensuite il y a tout ce qui est collectif, c'est-à-dire d'être derrière la population pour tout ce qui la concerne. Et en particulier, moi, ce que j'ai fait depuis pendant 7 ans, mais ce que je faisais avant et ce que je ferai encore après la fin de mon mandat, c'est évidemment la défense de tous les services publics et tout particulièrement de l'hôpital, mais pas seulement de l'hôpital. On est intervenu à chaque fois sur les problèmes des tribunaux, de l'EDF, de la Poste, de la SNCF, etc.
Nous venons de faire un micro-trottoir et on s'aperçoit que beaucoup de vos administrés ne savent pas vraiment à quoi servent les conseillers généraux. Est-ce que vous avez fait des actions de communication ou comment faire pour que les citoyens ici, locaux, savent de quoi ils retournent?
Oui, je crois que c'est tout le problème. Je crois même que ça commence à l'école. Hein. Les enfants ne savent pas trop bien comment fonctionnent les institutions. Moi, une petite anecdote, j'ai pris un jour un jeune en stop. Puis en parlant comme ça, je lui explique que j'étais conseiller général. Il ne savait pas ce que c'était exactement, donc je lui explique comment fonctionnent en gros nos institutions, avec les communes, des communes qui se regroupent, et puis plusieurs communes qui forment un canton, dans chaque canton un conseiller général, et puis tout ça va au département, et les départements regroupés formant les régions. Et alors il me dit, alors vous êtes conseiller général, et bientôt vous serez conseiller régional, comme si j'avais un développement de carrière, quoi. Voilà. Ça illustre complètement la méconnaissance de... Et c'est vrai que même dans nos rencontres sur les marchés, on se rend compte que les gens, pas vraiment qu'ils ne connaissent pas le rôle du conseiller général, parce que je crois qu'ils le connaissent, mais actuellement sont dans l'ignorance que dans moins de 2 semaines, il y a une élection cantonale. Et ça, je crois que c'est dû essentiellement d'ailleurs à la majorité gouvernementale actuelle qui, par crainte d'un vote sanction, met un peu l'étouffoir sur cette élection en évitant de lui donner trop de publicité par crainte d'un vote sanction.
Quand vous disiez que les gens connaissaient les compétences du conseiller général, c'est pas ce que j'ai pu ressentir lors du micro-trottoir. En quelques mots, pouvez-vous les repréciser, ces compétences?
Oui, alors il y a les compétences obligatoires. Les compétences obligatoires qui sont les collèges, avec notamment les transferts des personnels qui ne font pas partie de l'éducation, qui ont été transférés au département mais sans les compensations financières avec. Il y a les routes, l'entretien des routes, dont les routes nationales qui ont été déclassées en route départementale et auxquelles il revient au département également de les entretenir sans les compensations suffisantes non plus. Il y a le social, qui est en fait la compétence principale, en tout cas en termes budgétaires,
avec le RMI, le RSA, l'APA, l'enfance, jeunesse, etc. Et les transports, transport des écoliers, des collégiens et les transports collectifs pour tout public.
Vous avez vraiment une marge de manœuvre? Comment se prennent les décisions lors d'assemblées des conseillers généraux?
Il y a d'abord le vote du budget qui se fait tous les ans et ensuite des réunions régulières de ce qu'on appelle les commissions permanentes qui, dans le cadre du budget qui a été voté, affectent les différentes subventions en fonction des dossiers qui sont présentés. Alors ça, c'était les quatre compétences obligatoires. Les compétences facultatives, ce sont des compétences que s'attribuent les conseillers généraux. Tous ne s'attribuent pas les mêmes compétences. Donc, par exemple, dans la Drôme, on a pris la compétence sur la culture, sur le sport, sur l'agriculture et d'autres compétences comme ça. Et notamment, alors la plus importante pour nos communes rurales, c'est l'aide aux communes, qui, si la loi sur la réforme des collectivités territoriales était appliquée, supprimerait cette aide aux communes, puisqu'il est prévu de supprimer ce qu'on appelle la clause de compétence générale, c'est-à-dire que cette loi oblige les collectivités territoriales à se recentrer sur leurs compétences obligatoires et donc à éliminer les compétences facultatives. Ça veut dire que les communes ne pourraient plus percevoir d'aide du département, ce qui évidemment rendrait leur situation impossible. Comment une commune de 150-200 habitants, avec le peu de rentrées fiscales notamment, le peu de subventions qu'elle reçoit par ailleurs, le peu de dotations de l'État, pourrait refaire son école, prévoir une salle des fêtes ou refaire n'importe quel équipement.
Alors, vous faites des permanences tous les vendredis, vous personnellement, dans votre local qui est pas loin de la poste. Est-ce que vous pensez que les gens ont bien pris conscience qu'il était possible de passer la porte de votre bureau pour vous solliciter?
Oui, il y a des gens qui m'appellent puisque mon numéro de portable est connu. Moi, je suis pas en liste rouge, mon numéro de portable est connu. Il y a des gens qui m'appellent et des fois, ils sont surpris qu'ils puissent venir ici sans rendez-vous. Mais voilà, ça se passe comme ça.
Donc, vous méritez bien le terme d'élu de proximité, alors?
Oui, c'est tout à fait ça. Alors, la réforme des collectivités territoriales, dont j'ai abordé juste le sujet de la perte des compétences facultatives pour les départements, va effectivement changer aussi, devrait changer. Je dis devrait parce que quand même, on peut espérer que 2012 modifie la donne, puisque si nous assistions à un changement de majorité, ceux qui seraient majoritaires dans la nouvelle majorité, on peut dire, se sont engagés à abroger toutes ces lois et à revenir dessus. Mais en tout cas, dans l'immédiat, ce qui est prévu, c'est que les conseillers généraux et les conseillers régionaux soient supprimés pour être remplacés par un élu unique qui s'appellerait le conseiller territorial, qui serait sur un territoire de l'ordre de 15 à 20 000 habitants. Donc la proximité dans ce cas-là évidemment disparaît, et qui, suivant les sujets traités, les dossiers traités, siégerait une fois au département, une fois à la région. Ça amène au total à supprimer par deux le nombre des élus qui constituent actuellement les conseillers généraux et les conseillers régionaux. Donc c'est une loi qui n'a aucun sens, en tout cas dans nos territoires ruraux, c'est clair.
Où les gens sont disséminés sur de vastes espaces.
Alors, on imagine dans le Diois, enfin dans notre territoire, s'il faut arriver à 15 ou 20 000 habitants, ben, on couvre tout le Diois, on va jusqu'à Saillant, peut-être sur le sud, sur Rémusat ou sur Cray, enfin voilà.
Monsieur Condette, avec votre expérience d'homme de terrain, d'élu local de proximité, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour que les citoyens s'approprient cette vie publique qui semble un peu désaffectée par les citoyens?
Ah, ça, c'est vraiment une question très compliquée. Je crois qu'il faudrait déjà que les médias cessent de ressasser sans arrêt que les gens n'en peuvent plus de la politique, rejettent leur politique. Et puis ce discours qui a été amené par l'extrême droite en particulier, du tous pourri et destructeur, est largement relayé par les médias, alors que le tous pourri... Il y a quelques brebis galeuses, mais parmi les milliers et les milliers d'élus qui, en France, donnent de leur temps de façon la plupart du temps bénévole, les pourris dans tout ça, c'est extrêmement marginal. Et voilà, donc il s'agit de redonner un petit peu la parole aux gens, de redonner confiance en la politique. La politique, c'est pas un gros mot. Faire de la politique, c'est pas un gros mot. Faire de la politique politicienne, c'est beaucoup plus contestable, mais faire de la politique, c'est pas un gros mot. C'est faire vivre le pays, et donc effectivement les gens devraient se réapproprier la politique et même être adhérent d'un parti, c'est un acte démocratique aussi, parce que sans parti, il n'y a pas de démocratie.
Mais alors concrètement, quel moyen, à part adhérer à un parti, un citoyen a de se réapproprier cette vie publique? Est-ce que c'est pas justement en multipliant les permanences? Parce que je trouve qu'effectivement, les permanences, c'est bien. On a un problème, on va voir un élu de proximité, on lui expose son problème. Cet homme politique voit ce qu'il peut faire, il tire la bonne ficelle. Ou... Donc ça, c'est efficace. Est-ce que...
Oui, il ne fait pas que ça, parce que s'il fait tout seul, il a peu de chance. Ah oui, quand il y a des problèmes vraiment individuels, il faut les régler de façon individuelle, mais... Quand les problèmes sont plus généraux, un élu tout seul ne peut pas réussir. S'il dit « laissez-moi faire », il est sûr d'avoir perdu. Je crois qu'il faut qu'il s'appuie sur la population. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire à chaque fois qu'il y a eu besoin d'intervenir. Notamment, je me répète, dans la défense de nos services publics, qui sont quand même une condition essentielle de la ruralité et de la poursuite de la vie dans nos pays ruraux, que je ne veux pas encore appeler arrière-pays.
Petite question, c'est est-ce qu'au niveau local, les luttes fratricides entre la gauche et la droite sont-elles un facteur empêchant une communication, une collaboration entre les différentes factions?
Bon, je crois franchement, on peut dire que sur le Diwa, il y a toujours un clivage gauche-droite, bien sûr. Enfin, on n'assiste pas à des joutes meurtrières, je dirais. Tout reste quand même dans une certaine courtoisie. On peut quand même encore se rencontrer, même si on n'est pas de la même sensibilité, et se serrer la main.
Et vous arrivez à collaborer avec les gens qui ne sont pas du même avis?
Moi, en ce qui me concerne, dans mon canton, j'ai 15 communes. Je travaille avec les 15 communes, avec les 15 maires notamment. Je ne me suis jamais permis de leur demander leur orientation politique ou je n'ai jamais cherché à le savoir.
Donc vous travaillez avec eux?
Le travail, c'est de travailler avec les communes, quelle que soit la sensibilité du maire ou du conseil municipal.
Et c'est un métier à plein temps? C'est beaucoup de travail?
Plein temps, c'est quand même beaucoup dire, mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail qui impacte aussi sur la vie familiale. Faut pas le nier, mais ça, c'est le travail d'un élu.
Encore une dernière petite question. Y a-t-il une vie après une vie politique bien remplie? Est-ce que vous allez continuer à vous investir?
Ah oui, bien sûr. Bon, je vais quand même un peu profiter aussi et faire profiter peut-être ma famille un peu plus de ma présence. Mais moi, vous savez, je milite depuis l'âge de 16 ans, donc je pense qu'on peut continuer à être utile en continuant à militer, même sans être élu.
Merci beaucoup, M. Condette, d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Mais je vous en prie.
Merci, au revoir.
Alors Franck, une petite réaction à chaud?
Oui, réaction à chaud, donc au propos de Bernard Condette, on se connaît bien par ailleurs. Je trouve effectivement assez précis toutes les informations qu'il a pu redélivrer et qui effectivement sont assez représentatives des craintes que peuvent avoir les élus actuels ou les anciens élus ou les personnes qui sont sensibilisées justement au développement d'un canton. Il a été bien aussi qu'il puisse rappeler effectivement qu'il y avait des permanences que je n'avais pas reprécisées, permanences dans lesquelles on peut effectivement avoir accès très facilement à la totalité en fait de nos élus cantonaux. Donc ça, c'est quelque chose effectivement de très important. Après, c'est vrai que ce maillon du département, c'est le maillon par excellence du maintien des services publics actuellement. Avec justement ces conseillers territoriaux qui vont apparaître en 2014, le risque, c'est justement d'avoir la disparition de ces services publics, ou en tout cas de les voir confiés progressivement et petit à petit à des structures privées, puisqu'en fait le département aura de moins en moins en fait de possibilités budgétaires. Je m'explique, c'est-à-dire que le département en fait n'a pas de budget exponentiel. Il a une fiscalité effectivement, et ensuite il a des compétences. Et au regard de cela en fait, il n'a pas la maîtrise bien souvent dans son budget du RMI par exemple et du RSA et de tous les minima sociaux qui sont reversés. Il est obligé de les verser et d'en tenir compte avec son budget. Et dans cette difficulté, c'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où ils vont être obligés de faire des choix sur les services publics qu'ils peuvent maintenir ou ne peuvent pas en fonction des possibilités budgétaires. Et comme ils n'auront pas une parfaite maîtrise budgétaire, ils seront obligés d'abandonner certains postes. Ça, c'est déjà une première crainte. Et la deuxième, c'est le fait d'avoir des élus qui vont se retrouver de plus en plus éloignés en fait, du territoire, donc en fait des communes et du canton. À titre d'échelle, actuellement, l'arrondissement de Die, tel qu'on le prend, donc un conseiller général au niveau du canton de Die, un au niveau de Châtillon, un au niveau de Luc, un au niveau de La Motte, un au niveau de Saillant, sur une échelle donc assez proche quand même, une échelle effectivement de proximité, chacun tenant des permanences dans ces cantons-ci. Si on passe sur la loi territoriale effectivement en 2014, on va se retrouver avec des conseillers territoriaux qui, là, par extension de l'arrondissement de Die sur un échelon préfectoral, ajouteront la totalité du secteur diois à Cray, à Bourdeaux, et au final, donc, une population de 40 000 habitants sur laquelle on aura, en fait, au maximum, deux conseillers territoriaux pour représenter la totalité de ce secteur. Donc, une perte importante pour tous les secteurs en zone rurale, puisque la finalité et l'intention de cette loi, c'est d'en fait avoir tout d'abord un premier échelon de représentativité qui soit vraiment calculé et collé sur une démographie, donc forcément une perte pour la ruralité. Et je pense que ces conseillers territoriaux sont la fin de la ruralité. De même que par extension, ce sera la fin du service public. Alors on nous présente ça comme une finalité de faire des économies d'échelle, d'avoir plus de performances. On ne nous dit pas que peut-être, effectivement, c'est aussi pour essayer d'avoir la mainmise sur les régions et les départements, puisque la plupart sont à gauche actuellement. Donc effectivement, il y a des buts cachés sans doute, il y a des buts officiels, mais le but officiel, c'est effectivement de développer les axes. Le bassin valentinois sera surreprésenté en termes de conseillers territoriaux, et l'arrière-pays et le Val-de-Drôme ne seront quasiment plus.
Ils ne tiennent pas compte justement des densités démographiques pour calculer leur zone, pour répartir leurs conseillers territoriaux ?
Non, c'est vraiment ramené à l'habitant. Donc logiquement, ce sera un conseiller pour 20 ou 25 000 habitants.
Nous, on va être attachés au Crétois, effectivement. D'accord. Et donc, on n'aura pas cette proximité avec notre conseiller territorial.
Tout à fait. D'autant plus que le cumul des mandats pose aussi des problématiques. C'est-à-dire que sur un secteur comme celui-ci, si effectivement on a quelqu'un qui est député maire, on peut prendre l'exemple de M. Pariton, par exemple, sur Cray, le cumul du mandat, bien souvent, étouffe terriblement la possibilité, en fait, de voir une autre politique se mettre en œuvre. Parce que justement, il y a ce mandat de député, en fait, qui est là et qui donne un impact qui verrouille quasiment un bassin en termes d'électorat. Donc ça va poser de véritables problématiques dans le temps qui vont se retrouver sur le territoire et qui vont effectivement faire disparaître les services publics, faire disparaître la ruralité. Et on aura vraiment une possibilité de développement avec une marge de manœuvre qui sera extrêmement réduite.
J'avais cru entendre parler qu'il y avait effectivement une volonté de simplification administrative. Je ne me rappelle plus combien de communes, 36 000 et des bananes.
36 000 communes, oui.
Voilà, c'était quand même relativement logique que d'essayer de simplifier ces strates successives administratives entre la commune, le canton, le département, la région, l'État. Ça pouvait paraître complexe quand même.
La loi de décentralisation, en fait, de 82 allait dans un sens opposé, en fait. C'est-à-dire qu'on décentralisait pour effectivement redonner au territoire une plus grande autonomie, une plus grande gouvernance. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'inverse qu'on est en train de faire, en fait, hein. On est en train de renlever la notion de territoire et de recentraliser sur une région. Donc on va recentraliser sur la préfecture de région à Lyon. Et puis, sur cette préfecture de région, bah, autour va graviter tout un ensemble de services qui, en fait, vont redescendre par des échelons, mais avec des échelons de personnes. Enfin, je ne sais pas si tu imagines, mais deux personnes pour s'occuper de 40 000 habitants, en termes de proximité, c'est plus du tout la même notion que ce que nous avons actuellement, nous, dans les zones rurales. Donc après, il a même été envisagé effectivement de supprimer des communes. Hein, bon là, il y a eu un tollé parce qu'on est encore loin d'avoir cette préparation en fait dans notre schéma actuel. Mais c'est vrai que 36 000 communes, c'est énorme. Des toutes petites communes, c'est très difficile à gérer. Peut-être que le regroupement est intéressant, mais il y a déjà un échelon qui existe qui permet justement de se doter de moyens supplémentaires. C'est l'échelon de l'intercommunalité. Alors, nous avons une intercommunalité assez dynamique sur le territoire qui fonctionne bien, qui regroupe les 52 communes, donc un découpage qui est quand même assez cohérent et qui permet effectivement de donner encore un autre échelon et qui vient en complément en fait des politiques départementales bien souvent, puisqu'on retrouve des actions financées sur notre territoire qui le sont à la fois par les communes, par l'intercommunalité et par le département. Donc il y a quand même une cohérence actuellement qui est quand même à respecter, je crois, et à retrouver d'urgence.
Ouais. Ben, je te remercie, Franck, pour toutes ces précisions et j'espère que les auditeurs en retiendront quelque chose. En tout cas, c'est compliqué et c'est une des raisons pour lesquelles, je pense, les citoyens ne se sentent pas tellement concernés. On l'a bien vu dans les micro-trottoirs, c'est qu'on ne sait pas très bien à quoi tout cela sert, en fait. Donc ce genre d'émission était fait pour cela, c'était pour donner un petit aperçu du fonctionnement de ce qui est et de ce qui nous attend bientôt.
Ben, merci à toi pour ton invitation et ton accueil. Oui, c'était sans ambition et simplement avec un regard un petit peu candide, même si j'ai eu une expérience d'élu, mais je crois que c'est effectivement important que chacun puisse se mobiliser à différents échelons pour que la vie politique prenne toute sa dimension. Je voudrais juste rappeler en conclusion que Bernard y faisait allusion. Bernard Condette, c'est la politique. Quelle est la définition de la politique ? La politique, étymologiquement, si on revient sur le grec, c'est s'occuper des affaires de la cité. Et je crois que si les élus, effectivement, sont dans cet axe, c'est faisable dans un échelon local, municipal, intercommunal, cantonal. Après, ça n'est plus possible de s'occuper des affaires de la cité quand on est extrêmement éloigné de cette cité.
Très bien, donc on pourrait conclure en disant allons voter.
Allons voter.
Merci Franck, au revoir. Merci.